Chapitre 3. Fatalité. Bonne promenade, messieurs, cria la jolie brune. Bonne nuit, belle hôtesse, répond une voix d'homme, et la nacelle démarrée part sous le coup d'une puissante impulsion. Quatre jeunes gens montent cette nacelle. Le premier, assis sur le banc de l'arrière, tourne le dos à ses compagnons, les coudes sur les genoux et le menton dans les mains. Il semble plongé dans une contemplation profonde. Le vent de la nuit, qui se joue dans ses blonds cheveux, couvre parfois de leurs boucles nombreuses sa belle et pâle figure. Cet homme est jeune, mais il a souffert, car le cachet bistré du malheur entoure ses yeux noirs d'une auréole bleuâtre et donne à sa figure naturellement énergique une apparence d'amère mélancolie. C'est Karl de Rummelstein. Derrière lui, la partie inférieure du corps étendue au fond de la nacelle et la tête sur le banc du milieu, se trouve Raoul Brissard, sa bouche entr'ouverte, son regard terne, ses vêtements en désordre. Tout, jusqu'à son front perdu dans une épaisse chevelure, prête à sa figure violacée l'apparence du plus profond hébétement. On dirait une tête de kermesse flamande vue au clair de lune. Sibel, assis sur le banc du milieu, rame avec effort, mais rien dans ses traits n'annonce l'agitation intérieure. Briqueville est debout, à l'avant de l'embarcation, un pied dans la nacelle, l'autre sur le bord, les bras croisés et la tête découverte. Il préside à cette étrange promenade. L'ombre de sa haute taille glisse rapidement sur les flots. Le vent soulève ses cheveux bruns et les rayons de la lune qui se brisent sur son impassible figure l'éclairent d'une lueur funèbre. Tout à coup, la nacelle heurta l'angle d'un jardin. « Quelles armes faut-il prendre ?» dit Sibel en sautant sur la rive. « Des pistolets !» répondit Victor. « Nous sommes de même force !» 5 minutes après, Sibel, après avoir déposé une boîte dans l'embarcation, reprenait sa place de rameur, et la nacelle, cette fois, au lieu de suivre la rive, coupa droit le courant pour gagner un îlot, dit « la cage des franches amours ». Au même instant, une voix lointaine jeta dans le silence de la nuit quelques notes mélancoliques et rêveuses. La nacelle s'arrêta. « Qu'est-ce ? » fit Sibel. « La prima donna qui chante, » répondit Victor. La voix recommençait. C'était un de ces hymnes douloureux que l'âme brisée chante à la mort quand la coupe de l'avenir déborde d'amertume. La voix, pure et fraîche comme un souvenir d'enfance, puisait dans l'inspiration du calme nocturne des intonations étranges et d'une expression impossible à rendre. Karl s'était levé. Il écoutait avec émotion cette voix bien connue, qui semblait l'attendre au passage pour lui dire son hymne de mort. Son âme de poète se dilatait, et toutes les cordes mystérieuses de son cœur vibraient à l'unisson de cette funèbre poésie. La voix chantait en allemand. La tombe est profonde et silencieuse, son bord est horrible. Elle étend un manteau sombre sur la patrie des morts. Karl essuya une larme. « Chant de malheur !» grommela Sibel. « À la santé des morts !» fit Raoul en étendant ses bras vers les deux adversaires. « À la santé des morts !» et sa tête glissa dans le fond du bateau. On abordait à l'île des franches amours. Victor sauta légèrement sur l'herbe, les autres le suivirent, à l'exception toutefois de Raoul qui dormait du sommeil de l'ivresse. Sibel, après avoir noué au tronc d'un arbre la corde de la nacelle, ouvrit la boîte qu'il avait apportée, en tira 2 magnifiques pistolets et se mit à les charger avec le plus grand soin. Karl, silencieux et recueilli, écoutait la voix de son amante. « La mort n'a plus d'écho. Pour le chant du rossignol, les roses qui croissent sur la tombe sont des roses de douleur. » Victor mesura la distance. « Voici les armes !» dit Sibel. Karl se retourna en frissonnant, prit un pistolet et fut se mettre à la place que le jeune Anglais lui avait indiquée du geste. Il était pâle. 40 pas séparaient les deux adversaires. Sibel, avant de donner le premier signal, consulta des yeux Victor Briqueville, qui, pour toute réponse, arma son pistolet. L'étudiant frappa dans ses mains. Karl fit un pas. « Ami, dit-il, j'ai eu tort, mais c'est une colère que tu dois comprendre. Dis-moi que tu plaisantais, et tout sera fini. »« Regarde, répondit Victor, et du canon de son arme, il indiquait les sanglantes morsures de la cravache. « Frère, dit Karl avec tristesse, ne sais-tu pas que je suis horriblement heureux à ce jeu de mort ?» Un sourire dédaigneux plissa les lèvres de Briqueville. Ils levèrent leurs pistolets en marchant l'un vers l'autre. Au cinquième pas, les deux coups partirent. Karl s'arrêta. Sibyl, tremblant comme la feuille sous le vent d'orage, regardait, sans la comprendre, la scène qu'il avait sous les yeux. Victor s'était arrêté sur le coup, comme étourdi par un choc violent. Puis il avait repris sa marche vers son adversaire. Arrivé près de Karl, il le saisit par le poignet, le fit tourner sur lui-même et d'une main indiquant le balcon de la chanteuse. « Là-bas, » dit-il en s'affaissant à vue d'œil. « Là-bas, le baron Yann de Pirmesens. » Il n'avait pas achevé qu'on entendit une voix d'homme forte, vibrante et métallique qui accompagnait le chant suave de Maria. Ces deux voix chantaient. « L'orage a soufflé sur mon âme. Ma voile est déchirée. Où trouverai-je la paix? Où trouverai-je la paix? Dans la tombe. » Les voix se turent, et Karl se retourna brusquement pour interroger Victor. Celui-ci, étendu sur l'herbe, la poitrine percée d'une balle, se tordait dans les convulsions de l'agonie. Sibyl, agenouillée, les mains de Briqueville dans les siennes, pleurait silencieusement. Karl se pencha, ouvrit, ou plutôt déchira la chemise du blessé, et lui mit la main sur le cœur. Il ne battait plus. « Adieu, frère, » murmura-t-il, « adieu. » Puis il releva sa tête, contractée par le désespoir, et les bras étendus vers le balcon de la chanteuse, il s'écria. « Oh, malheur sur cette femme, malheur sur le baron Yann de Pirmesens, malheur sur moi, malheur parce qu'il faut à la vengeance de ce mort notre sang à tous les trois. » 5 minutes après, Raoul, mollement étendu sur les gazons fleuris de l'île, rêvait ponches et maîtresses, tandis que la nacelle, manœuvrée par une main de fer, glissait rapidement comme une hirondelle marine sur les flots argentés de la Meuse.